Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
1, la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir.
Bonsoir.
Héloïse et Aglaé ayant été emportées par une soucoupe volante, on se retrouve à deux avec Eva, mais pas seulement, puisqu'on a aussi Anthony et une invitée secrète, oh là là.
Tu dévoiles pas tout.
Pas tout pour le moment. Mais bref, aujourd'hui vous êtes chanceux et chanceuses parce qu'il y a un jeu concours. On vous propose de gagner 2 places pour le spectacle du Pokémon Crew opposant de passer le vendredi 18 avril pardon, 2025 à 20h. Fort de 25 ans de passion et de création du bitume à la scène, le Pokémon Crew retrace l'histoire vibrante du hip-hop à travers un spectacle captivant. Depuis son émergence dans les rues de New York dans les années 70, ce mouvement culturel et artistique a marqué les esprits et transcendé les générations. Ils ont même été vus au JO. Et pour gagner ces places, il vous faut un mot de passe qui est
Power Move.
Waouh, c'est tellement impressionnant. Et puis rendez-vous sur notre site internet ou sur notre compte Instagram 6h avant minuit sur Célab pour jouer, ou même la radio Célab. Et tout de suite, le flash info d'Anthony.
Droits de douane déclarés ce mercredi 9 avril, les USA ajoutent des droits de douane de 84% à la Chine. Cela concerne les importations de l'Empire du Milieu face aux États-Unis. Cette réforme a été annoncée la veille par Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche la veille. Cela se surajoute aux droits de douane de 104% déjà en vigueur. Par ailleurs, l'Union européenne a lancé sa première riposte face aux géants américains. Il s'agira de taxes imposées sur les produits américains. C'est la première étape qui prendra effet le 15 avril. Elles seront appliquées sur des produits comme le maïs, le riz, le jus de fruits et d'autres produits alimentaires. Tension entre la Chine et l'Ukraine à la suite de la capture de 2 soldats chinois sur le territoire ukrainien. Pékin réfute des accusations sans fondement ce 9 avril. Accusation sous-entendant que la Chine combattait avec la Russie. La porte-parole chinoise du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Chine est en train de procéder à des vérifications avec l'Ukraine sur cette affaire, avant de préciser qu'elle, je cite, tenait à souligner que le gouvernement chinois a toujours demandé à ses citoyens de se tenir à l'écart des zones de conflits armés, d'éviter d'être impliqué dans des conflits armés sous quelque forme que ce soit, et en particulier éviter de pratiquer aux opérations militaires de quelque partie que ce soit. Selon les premières informations, il s'agirait de contrats signés entre les Chinois et l'armée russe. Laurent Wauquiez, chef des députés républicains, défend son choix. Sa proposition confiée lors d'un entretien au JD News est d'enfermer des OQTF dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, le patron des députés, les Républicains, critique que les étrangers dangereux sous OQTF soient limités à 90 jours en détention administrative et souhaite faire pression. Il aurait une seule alternative, soit partir à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit rentrer chez eux, conclut-il sur le sujet. D'abord Retailleau, puis Wauquiez. Cette déclaration suscite de nombreuses réactions. Chef de file des députés PS, Boris Vallot a quant à lui qualifié le projet aussi, je cite, « indigne qu'idiot ». Une épidémie qui n'est pas prête de se terminer. À La Réunion, ce mercredi 9 avril, l'agence régionale de santé annonce 6289 nouveaux cas de virus de chikungunya du 24 au 30 mars, ce quoi s'ajoute 22 000 nouvelles consultations chez les médecins, soit une hausse de 18% par rapport à la semaine précédente. Un plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Lille pour lutter contre ce virus transmis aux humains par la piqûre des moustiques Aedes albopictus et Aedes aegypti. 86 propositions pour essayer de tout changer. Aujourd'hui, l'écologiste Sandrine Rousseau, accompagnée de députés Modem Erwan Balano, présenta à l'Assemblée nationale et aux médias un rapport très attendu celui de la commission d'enquête sur les violences dans le secteur culturel. Si rien ne nous résulte les résultats énoncés par la présidente et le rapporteur de cette commission exceptionnelle.
À l'origine impulsée à la demande de l'actrice ayant été abusée lorsque mineure Judith Godrèche, ce rapport se base sur une centaine de témoignages récoltés. Démarrée en octobre, elle présente une analyse sur les violences commises dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Des violences sexistes, sexuelles, physiques ou encore économiques, qualifiées de systémiques, endémiques et persistantes dans le monde de la culture par les textes. Une machine à détruire les talents, d'après les mots d'Erwan Balanant ce matin dans un entretien accordé à France Inter. Les deux députés ont notamment évoqué un milieu propice au développement de ces violences, puisque parqué d'une certaine hiérarchie et d'un entre-soi où tout le monde connaît tout le monde, d'après les mots du rapporteur sur France Inter. De quoi ne pas faciliter le recueil de la parole de cette commission. Puisque au total, selon Sandrine Rousseau, il et elle n'ont pu récolter qu'un dixième de témoignages à l'origine prévus, les personnes annulant leur venue. Lorsque présente, la présidente de la commission évoque, je cite, « des victimes tremblantes comme des branches ». Le texte précise également que beaucoup des violences ont lieu dès l'enfance des jeunes talents. Un des leviers majeurs donc sur lequel agir, selon le rapport concluant qu'il faudrait encadrer fortement la présence d'enfants sur les tournages, ainsi que développer au mieux leur accompagnement par la création de structures spécifiques. Un des autres aspects abordés plus globalement est celui des castings, parfois sauvages et ayant lieu dans des endroits pas du tout encadrés, ne garantissant donc pas la sécurité des auditionnés. Sur France Inter, Erwan Balanant a évoqué l'idée de les réaliser entièrement dans des bureaux reconnus. Enfin, le rapport préconise de développer plus amplement le métier de coordinateur d'intimité. Pour précision, ce sont les personnes qui coachent et appréhendent avec les actrices les scènes de proximité entre des personnes ou plus globalement les scènes de nudité.
Et si vous voulez avoir plus de détails, l'ensemble de la présentation du rapport de la commission est disponible sur la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale. Merci Cyriane pour ton papier.
De rien Anthony.
Tension entre la Chine et l'Ukraine à la suite de la capture de deux soldats chinois sur le territoire ukrainien. Pékin réfute des accusations sans...
Tu l'as déjà fait, Anthony, celle-là.
Ah, désolé, petit...
On a déjà parlé de l'Ukraine.
Rodéo urbain à Rennes. Hier soir, une altercation a eu lieu sur la dalle Kennedy entre policiers et une dizaine de personnes. Depuis plusieurs mois, un motocross sans immatriculation est utilisé pour des rodéos à Villejean. Vers 19h30, trois policiers municipaux ont reconnu l'engin à l'arrêt près de l'avenue Winston Churchill et ont interpellé le conducteur de 17 ans, rapporte le Télégramme. Et selon Rennes Info autrement, plusieurs personnes aux alentours de la scène ont commencé à lancer des projectiles sur la police. L'auteur du rodéo a lui tenté de se rebeller, blessant légèrement une policière et très rapidement, des renforts de la police municipale sont arrivés et intervenus. Le conducteur de la moto a finalement été mis en garde à vue. Une mauvaise nouvelle de la part du Jardin Moderne, interviewé par Eva Gladys Le Bihan, co-directrice administrative et financière de l'association, nous explique.
Suite aux différentes coupes budgétaires qui nous ont été annoncées là cette année par les collectivités publiques, nous on se doit de faire des choix. Et des choix qui sont assez difficiles. Là, on est obligé, par exemple, d'annuler un des événements phares qu'on portait, nous, à l'année, qui est donc l'Open Garden, qui permettait de mettre sur scène des groupes issus de la répétition, donc de valoriser un peu leur travail, mais aussi de valoriser des projets qui travaillaient à l'année au Jardin Moderne et qui présentaient leur création sur ce temps. Le Jardin Moderne, c'est un lieu d'accueil de toutes les pratiques musicales sur la ville de Rennes et puis au-delà. L'idée de ce lieu, c'est vraiment d'être un outil au service de ceux et celles qui souhaitent pratiquer, écouter de la musique. Là, on se retrouve face à un manque de visibilité à moyen long terme de la part de nos financeurs, qui eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas de visibilité sur les dotations de l'État, puisque c'est ça aussi le sujet, hein, c'est la baisse des dotations de l'État aux collectivités qui se répercute aux subventions des associations. Et du coup, là, on a peu de visibilité. Ça, c'est un peu nouveau. Là, ce choix, il a été fait parce que c'est un choix économique. Les actions qu'on porte en propre, mine de rien, sont des actions qui sont coûteuses. Malheureusement, on a dû faire un choix un peu pragmatique, économique. Et puis, ça permettait aussi de garantir l'accueil de plus d'associations à l'année, en fait, pour continuer à proposer aux associations un espace pour organiser leurs concerts. L'Open Garden, c'était vraiment un événement éponyme de toute notre saison en plein air qu'on organise et qui se maintient, elle, pour le coup, avec l'organisation entre mai et juillet de 9 dates, avec 2 festivals, le People à la Pop et le Super Bowl of Hardcore. C'est une saison qui va commencer le 10 mai. C'est ça qui est important de rappeler. Il y a quand même toute une saison qui va se passer et qui va être très très chouette.
La programmation du Jardin Moderne pour mai, juin et juillet sera disponible pour les intéressés dans les prochains jours sur leur site. Et vous avez peut-être pu entendre en dessous de la voix de l'intervenante la chanson d'Emma du groupe Sinbad, passée à l'Open Garden 2024. Vous avez envie d'une petite conférence ? Eh bien, oui. Vendredi 11 avril, vous serez servi. La photographe Michèle Urwa animera une conférence sur l'exclusion et la précarité à l'association Saint-Benoît-Labre. Au cours de son expérience, il y a rencontré une multitude de personnes. Ces personnes sont des bénévoles, des salariés, mais le cœur de ces rencontres se tourne vers les habitants en difficulté, comme les personnes sans domicile fixe, demandeurs d'asile ou encore des femmes seules victimes de violences. Michèle Urwa les mentionne aussi dans son livre « Vie brisée, espoir retrouvé » publié aux éditions Ouest France. Un livre accompagné de photographies et de lettres témoignages. Rendez-vous donc le 11 avril à 17h30 au 5e étage de la Bibliothèque des Champs Libres. La conférence qui aura lieu à Rennes sera suivie d'une séance de dédicaces. Et excusez-moi pour ma petite faute, c'est à la précarité sur l'association Saint-Benoît-Labre.
Merci Anthony. Et maintenant, on passe à l'interview de Cyriane. Mais qui as-tu ce soir, Cyriane ? Dis-nous tout.
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Frange et simple débardeur noir, j'ai face à moi ce soir Esther Laillet. Tu es membre des éditions du Commun. Bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Bah de rien. Et bah déjà pour commencer, c'est quoi les éditions du Commun ?
Les éditions du Commun, du coup, c'est une maison d'édition basée à Rennes, dans le quartier du Blône, depuis 2015. Alors à l'origine, c'était pas au Blône, mais ça fait plusieurs années qu'on est installé au Blône et qu'on revendique aussi cet ancrage-là au niveau d'un quartier. On publie surtout des sciences sociales. On a plusieurs collections, voilà, collection sciences sociales, plutôt essais traditionnels. On a aussi une collection culture des précédents qui se veut vraiment historiser certaines pratiques populaires passées dans certaines luttes minoritaires, etc., pour transmettre la mémoire de ces luttes-là. Et puis on a aussi notamment une collection de poésie qui a été initiée par ma collègue Juliette Rousseau en 2022, donc ça fait 3 ans cette année, on a déjà 10 textes dans cette collection. Voilà, globalement on a ces textes-là, plutôt axés sur les luttes actuelles, avec un regard qui se veut un peu précis. On a tendance à plutôt éditer des gens qui sont issus vraiment des sciences sociales et qui portent un certain regard politique sur l'actualité.
Et donc, en dehors de ça, tu as dit qu'il y avait des personnes qui faisaient de la poésie. Elles, par exemple, elles viennent d'où plutôt ? Est-ce que vous cherchez des profils un peu atypiques ou comment ça se passe ?
Ouais, là, ce serait ma collègue Juliette d'en discuter, mais en fait, en tant qu'éditrice, elle a sa propre sélection, sa propre sensibilité. C'est aussi chaque collection qui est faite par l'éditeur RIS qui l'incarne. Et c'est vrai que c'est des textes toujours très particuliers qui ne se ressemblent pas du tout les uns les autres. Voilà, par exemple, on a L'odeur des pierres mouillées de Léa Rivière qui parle de la transidentité d'une façon totalement inédite et très puissante, mais qui parle aussi du soin, du rapport aux vivants en général, mais même aussi aux mortes. Et puis, à côté de ça, on a Héloïse Brésillon, par exemple, qu'on a publié il n'y a pas longtemps, qui a un recueil qui s'appelle T3M, qui vient questionner à la fois la poésie et la science-fiction, avec l'idée d'une IA qui peut permettre de guérir les traumatismes et de cartographier un petit peu la douleur, la mémoire, etc. Donc c'est des choses très riches, très différentes et ça revient à la sensibilité de l'éditrice.
Et c'est des récits qui parlent souvent de récits de personnes minoritaires. Est-ce que c'est l'occasion, rien que c'est dans le nom du commun, de faire transparaître un peu la vie quotidienne en fait de personnes, ces éditions,
oui, complètement.
Qui ne seraient pas forcément légitimes à être publiée dans des plus grandes...
Oui, bien sûr, il y a l'idée d'un ancrage et de, notamment, enfin, ce que tu dis, ça me fait penser à notre collection de littérature, elle s'appelle Des Réels, et en fait, il y a vraiment cette idée-là d'être incarné dans la vie des personnes, de rapporter quelque chose de sensible et de vécu. Voilà, c'est le cas de Casser du sucre à la pioche, qui raconte la mort d'un ouvrier au travail, par exemple. Donc, il y a vraiment l'idée de partir, effectivement, du sensible et du vécu des personnes, si c'est ce que tu voulais dire.
Ouais. Et plus généralement, du coup, cette maison d'édition, d'où elle vient de... Enfin, c'était quoi le projet à la base
Le quoi projet son à la base, ce serait mon collègue Benjamin Roux qui a fondé la maison d'édition en 2015. Ça a toujours été un projet collectif. On est une maison d'édition, on a un noyau dur de 4 personnes, mais on travaille aussi très étroitement, en collaboration très étroite avec Fabrice Lurenne et Marine Ruot qui s'occupent de tout ce qui est graphique, graphisme, couverture, design, etc. Et puis on a tout un tas de personnes avec qui on travaille aussi pour les relectures, etc. Donc on considère vraiment que c'est une constellation en fait, et on se voit comme un collectif à la base. L'idée, c'est de faire circuler des textes et des idées qui puissent amener à l'émancipation collective. Et effectivement, on se concentre, c'est au cœur du blaze. C'est voilà, le commun, c'est l'idée de se concentrer sur ce qui nous est commun pour, vu le contexte, quand même espérer un futur plus désirable et collectif.
Oui, tu parles d'un contexte où justement, on est dans un contexte de concentration des médias. Comment c'est aujourd'hui d'être une maison d'édition indépendante? Niveau financier, même niveau d'organisation, ou pour se faire publier, enfin distribuer dans les librairies par exemple.
C'est terrible, on pleure tous les matins. C'est... Non, bah heureusement, on garde le moral et on fait des blagues et ça se passe bien. Mais pour expliquer un petit peu comment ça se passe, on a un diffuseur qui est la personne qui, enfin la structure pardon, qui fait le lien entre la maison d'édition et les librairies. Donc nous, on est diffusé par Obo Diffusion et eux, ils diffusent. Donc c'est à l'échelle d'autres groupes, justement gros groupes. C'est une petite échelle. Ils ont une centaine de maisons d'édition au catalogue et ils s'occupent d'aller dans les librairies présenter les nouveautés et ce qu'on appelle placer les livres dans les librairies. Donc on est diffusé dans tout l'Hexagone, mais également aussi en Suisse et en Belgique, grâce à ce diffuseur-là. Après, autrement, ben, c'est vrai que le rapport de force, il est assez inégal, et ça ne va pas en s'améliorant avec les projets de Bolloré, mais aussi de Pierre-Edouard Sterrin. Donc là, actuellement, si je peux apporter quelque chose d'une note positive, c'est qu'il y a un recueil collectif qui se prépare, qui s'appelle Débordé Bolloré. On est co-éditeur de ce recueil-là. Et on est beaucoup de maisons d'édition à avoir rejoint le projet initié par les éditions Burnout. Il y a une quinzaine de contributions à l'intérieur qui rapportent l'expérience d'éditeurisme, mais aussi de libraire, d'imprimeuriste, etc. pour donner un contexte actuel et essayer de rassembler nos forces.
Et tu parlais du projet... t'allais dire quelque chose ?
J'allais dire qu'il serait disponible en juin okay. en librairie.
Et est-ce qu'on peut les acheter sur Internet aussi ?
Oui, a priori, il y aura sûrement, un site Internet dédié pour ce livre-là. Il faut qu'on voit après comment on fait entre toutes ces maisons d'édition, mais possiblement aussi sur le site de Burnout.
Et tu parlais aussi du projet de Pierre-Edouard Sterrin, qui est un projet qui est un peu plus méconnu, disons, du grand public, quand on ne s'intéresse pas vraiment à la question des médias. Est-ce que tu pourrais le développer ?
Pierre-Edouard Sterrin, c'est encore un autre profil que Monsieur Bolloré, mais en tout cas, il a un plan qui s'appelle le plan Périclès, où il veut injecter je ne sais plus combien d'argent pour les faire gagner l'extrême droite pendant les municipales. Et donc, il vise vraiment à investir les plus petites communes, donc plutôt en ruralité, et à faire gagner, il le dit très clairement, son projet, c'est faire gagner l'extrême droite. Et là, dans les nouveautés, il y a un article très, très intéressant sur Mediapart qui relate cette histoire-là. Il va mettre en place une école non mixte pour... Enfin voilà, il fait sa petite sauce pour faire avancer dans l'éducation, dans les idées, l'extrême droite plus possible. Donc c'est toujours des projets privés. Il a aussi une fondation pour le bien commun, où il fait des soirées de charité, où il récolte des dons, etc. Il y en avait une à Rennes, justement, pour plusieurs associations. Voilà, je vous invite à lire les articles de Mediapart. Je ne serais pas qualifiée pour en parler plus longuement, mais les journalistes le font très bien, sur Mediapart en tout cas.
Il prépare sa petite tambouille, quoi.
C'est ça.
Et du coup, en attendant, si ça ne nous intéresse pas vraiment, qu'on ne veut pas aller donner de l'argent à Pierre-Edouard Sterrin, on peut aller à la soirée des 10 ans des éditions du commun, parce que c'est vos 10 ans, joyeux anniversaire.
Merci.
Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée ?
Alors effectivement, là, on avait envie de marquer le coup. C'est à la fois dans une logique de les temps sont durs, on a envie un peu de célébrer, de se retrouver, de se dire que voilà, on est toujours bien entouré. Et de, voilà, de resserrer nos liens, de faire que les gens se rencontrent, continuent de se fréquenter, d'avoir plein de projets qui peut-être vont naître cette soirée-là. Donc l'idée c'était ça. On va proposer plutôt pour commencer la soirée une rencontre, parce qu'en fait on sort un livre la veille qui s'appelle Petit manuel de démocratie énergétique, qui pose la question de l'énergie comme étant une question publique et populaire, et comment on s'en ressaisit et comment faire communauté politique. C'est un peu le mot d'ordre, enfin, c'est un peu... une des clés, peut-être, un des leviers pour nous aider à appréhender la suite. Donc on commence avec cette rencontre-là à 18h. Après, il y aura une cantine végane, un bar pour manger un bout ensemble. Et puis pour la soirée, on a le groupe Fond Perdu, qui est un collectif de camarades de l'édition dont je ne dévoilerai pas la maison, qui sur scène performe de façon très comique à quel point c'est dur, notamment dans le monde de la bande dessinée, et à quel point ils sont précaires. Ensuite, on a un drag show de Parking 35 qui va nous régaler pendant une heure et quelques. Et puis pour clôturer la soirée, il y aura deux DJ sets, donc Ben Affect, qui est un blaze un peu mystérieux que je dévoilerai pas non plus, faut venir pour savoir. Et puis Lula, donc DJ Lula 666, qui va clôturer la soirée en beauté.
Et tout ça, c'est des artistes, on dirait, un peu mystérieux et mystérieuses. Est-ce que c'est compliqué d'aller chercher des artistes quand on est une maison, enfin, qui se revendique clairement, je peux le dire, de gauche, quoi?
Ah bien sûr, on se dit même de gauche radicale aussi parfois. Disons que en fait, c'est aussi tout un petit milieu de la culture rennaise dans lequel nous on évolue, etc. Moi Lula, je suis fan de cette DJ, j'ai assisté à tous ses mix et je la photographie en permanence et du coup je lui ai proposé simplement. Voilà, Fond Perdu, ça reste aussi des camarades de l'édition. On se croise dans plein d'espaces divers et variés, donc disons que c'est aussi à partir de nos liens. En tant que camarade à gauche, que ce soit de la culture ou plus largement, voilà, on est dans la même famille politique et du coup, pour cette soirée-là, ça s'est bien goupillé.
Et en soi, c'est... Il y a aussi la question d'ouvrir... est-ce que c'est... Pardon.
vas-y, Sirène.
Est-ce qu'aux éditions du commun, il y a aussi l'idée de... Parce que les gens lisent de moins en moins... D'aller chercher d'autres publics, plus multimédia, sur les réseaux sociaux.
Oui, ça peut. Alors, sur le côté multimédia, pas forcément. C'est pas notre fort, les réseaux sociaux. Mais sans trahir notre projet. Notre projet, horrible ce mot. Notre intention voilà, et notre volonté politique à la base. Là-dessus, on prépare une nouvelle collection pour l'année prochaine. Qui s'appelle Une autre histoire 2 et qui est un format qui sera pas cher, qui sera vraiment un petit texte assez court, rédigé par une connaisseuse d'une thématique ou d'une pratique populaire. Par exemple, les premiers titres à sortir sera sur la variété française par notamment Michael Correa, qui est journaliste à Mediapart. Il y aura une autre histoire de la mort, une autre histoire de l'éducation populaire, etc., du surf, enfin voilà, on a pensé à plein de thématiques, et ça peut être un format qui peut effectivement intéresser plus largement, être plus accessible que un essai de sciences sociales qui est 300 pages et qui est, si les gens n'ont pas le temps, pas l'envie de lire 300 pages, et bien on propose un autre format qui soit plus largement accessible.
Oui, qui est parfois un peu plus complexe dans sa rédaction, enfin dans sa formulation à comprendre quand on n'est pas forcément adepte des sciences sociales, quoi.
Ça peut, voilà. Donc une autre histoire à retrouver en librairie en 2026 aux éditions du commun.
Et donc vous avez choisi le BAM, le bâtiment
à modeler.
Voilà, exactement. Pourquoi vous avez choisi ce bâtiment?
Alors, le bâtiment à modeler, c'est donc l'ancien antipode de Clunay. C'est un bâtiment dans lequel il y a beaucoup d'associations qui cohabitent et on en fait partie puisqu'on a un lieu de stockage. Alors, tous nos livres ne sont pas au BAM, je pense que ça ne rentrerait pas. Mais voilà, on a une pièce dans laquelle on a nos livres. Donc, on a déjà aussi un ancrage à Clunay. On a des liens assez forts avec les personnes du BAM également. Et puis, c'est un lieu qui est destiné lui aussi à disparaître, donc c'était important pour nous d'investir cet endroit-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Mais... Si. Mais tu as dit qu'il était destiné à disparaître?
Oui, en fait, normalement, ça va être l'été 2026. La municipalité ou la métropole, je ne sais plus, a des projets de construction, notamment de logements sociaux dans ce quartier-là. Enfin, Clunay fait partie des quartiers populaires de Rennes, dans lesquels il y a des gros plans de réhabilitation urbaine. Et donc, ça fait ça fait un moment que il y a des bails qui sont censés être renouvelés. On ne sait pas trop à quel moment ça va finir par disparaître, mais c'est pas censé rester tel quel.
Ok.
Donc, et on compte bien se défendre et, voilà, et investir ce lieu au maximum tant qu'il est encore là.
Ok. Et ben en tout cas, on invite tout le monde à venir le
26... Nos auditeurs.
Nos auditeurs.
Bien entendu.
Ouais, on vous attend le 26 avril à partir de 18h au BAM à Cluny et on vous accueillera avec plaisir.
Et c'est gratuit ?
C'est gratuit, carrément.
Et ben super.
Ça, c'est super.
Ça, c'est génial. On aime la gratuité.
Et ben merci. Encore joyeux anniversaire.
Surtout. Encore joyeux anniversaire.
Merci.
Et merci pour cette interview de qualité.
6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique de Marilyn et aujourd'hui nous plongeons au cœur des compétitions internationales de l'année 2025 avec un focus particulier sur les Bleus et la Women's Nations League ainsi qu'un tour d'horizon des événements majeurs de l'année. Marilyn, tu es prête à en parler ?
Oui,
bonsoir.
Bonsoir Marilyn.
Bonsoir, bonsoir. Donc oui, hier, donc la planète foot avait les yeux rivés du coup sur le match entre Arsenal et le Real Madrid ou l'Inter et le Bayern. Mais il y avait aussi un match qui intéressait tout particulièrement les amateurs et amatrices de football féminin. En effet, les Bleus affrontaient la Norvège dans le cadre de la Women's National League. Finalistes de l'édition précédente, elles ont entamé leur campagne dans la Ligue A. Donc, j'expliquerai plus tard qu'est-ce que la Women's League et comment elles se sont trouvées là-dedans. Et elles étaient donc dans le passé dans le groupe A2. Elles ont affronté l'Islande, la Suisse et donc hier, la Norvège. Elles ont dominé la Norvège et ont gagné 2-0 à Oslo grâce à des buts de Sandy Baltimore et Clara Matteo. Avec ce quatrième succès, les Bleus poursuivent leur sans-faute et valident leur billet pour les demi-finales de Ligue des Nations en octobre. Donc ce sont les seuls en Europe pour l'instant qui sont qualifiés. Donc on peut les applaudir. Voilà. Donc pour revenir sur la Nation League, pardon, c'est pareil que pour les hommes. Donc c'est une compétition qui a vu le jour lors de la saison 2023-2024, qui a couronné l'Espagne. Donc les quatre vainqueurs du groupe de la Ligue A se qualifient pour la phase finale qui aura lieu du coup en novembre et décembre. Pour cette édition, il y a une nouveauté. Les finales et demi-finales se joueront en deux matchs, donc match aller-retour. Donc, ce qui est logique pour une finale, mais pas très logique pour une finale, je vous l'avoue. Et donc, elles servent aussi donc, de promotion pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en 2027 au Brésil. La Ligue des Nations, du coup, a trois groupes, trois divisions, A, B, C. Pour la A, c'est directement pour la phase finale et pour les autres, c'est pour ils doivent vérifier leur classement pour qu'ils puissent avoir des places soit pour les Jeux Olympiques, soit pour les compétitions, donc comme je vous l'ai dit, pour la Coupe du Monde. Pour un tour d'horizon des compétitions féminines, donc en Europe cet été, se tiendra en Suisse du 2 juillet au 27, 16 équipes pour l'Euro féminin, donc qui a vu couronner l'Angleterre chez elle en 2022. Donc les stades sont emblématiques comme le parc 5 de Bâle et ils accueilleront les matchs clés. Donc vous pouvez d'ailleurs devenir volontaire au sein de cette compétition, donc il suffit de se rendre sur le site de l'UEFA et de postuler. Oh pardon. Ensuite, nous avons la finale de Ligue des Nations donc qui aura lieu plutôt en fin d'année 2025 donc les demi-finales auront lieu le 22 et le 28 octobre 2025 et les finales le 26 novembre et le 2 décembre 2025. En Afrique, le football féminin sera également à l'honneur avec la Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée d'un an en raison de la pandémie. La compétition aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet. L'équipe sud-africaine, les Bayana Bayana, championne en titre, chercheront à défendre leur titre face à des redoutables adversaires, comme les Super Falcons du Nigeria, qui ont marqué l'histoire du football féminin africain par leur domination. En Amérique du Sud, il y a la Copa América, 10e édition, qui se déroulera en Équateur du 12 juillet au 2 août. Donc pareil, 10 équipes sud-américaines y participeront, le Brésil défendra son titre. En conclusion, donc c'est une année qui sera particulièrement continentale, et il ne faut pas oublier de soutenir du coup et de regarder les filles, notamment pour l'Euro qui sera diffusé en France, et de ne pas oublier de s'abonner à leur compte et de mettre en valeur le football féminin.
On espère qu'elles vont enfin nous ramener quelque chose.
Alors,
yes, on les soutient.
Elles s'en foutent. Après, effectivement, il y a des débats sur leur jeu, mais on ne sait jamais. Et puis, il faut aussi noter qu'elles sont dans le groupe de la mort, hein, pendant l'Euro. Donc, on va voir ce qui en retournera.
Un groupe bien compliqué.
Et oui.
Mais en tout cas, merci beaucoup Marilyn pour ta chronique. C'était d'ailleurs ton dernier jour de stage.
Et oui, quelle horreur.
Quelle horreur. Est-ce que tu vas revenir quand même?
Mais oui, je serai toujours là.
Une petite chronique sport quand même.
Et oui.
Il nous en faut plus. On a besoin de plus.
On veut plus de transpi. Bref, je crois que le répondeur sonne.
Allô?
Allô?
Le téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Et non, malheureusement, notre boîte vocale est vide et seule. S'il vous plaît, remplissez-la. Envoyez-nous un message.
Elle se sent si solitaire.
Elle se sent si seule. Alors, si vous avez un retour à faire sur un de nos reportages, une chronique, une déclaration d'amour à faire ou que sais-je, exprimez-vous.
Dites-nous
et laissez-nous
tout.
Un message au 02 30 96 25 35.
Et bah, super.
Et puis bah, en tout cas, merci beaucoup Marilyn pour la technique et à demain.
Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9.
Si la la. La radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.